Antenne libre par Yann Moix sur Europe 1.
Eh bien, Mathilde, Benoît, Nicolas et moi sommes rentrés à la maison où nous attendaient, un peu impatients, nos invités. Nos invités que Mathilde va nous présenter, sachant que vous allez commencer à tout seigneur, tout honneur, par notre invité fétiche, si j'ose dire, qui est à votre droite, Mathilde.
Tout à fait.
Vous allez rappeler l'identité.
Tout à fait. Alors bonsoir à toutes et à tous, nous sommes rentrés effectivement notre petite balade nocturne. Et alors Henri Forgue, premier adjoint au maire de La Palme, bonsoir, merci d'être avec nous Henri.
Pour la troisième fois.
Exactement. Et je vous présente également Bernard Pérez. Bonsoir, vous êtes pêcheur et président régional du comité des pêches d'Occitanie. Et Sandrine et Pascal sont aussi parmi nous, bonsoir.
Pascal Margot.
Vous avez un food truck bar à huîtres à Perpignan qui s'appelle « Sur la plage abandonnée ». Et pour terminer les présentations, Guillaume, bonsoir. Vous viviez à Paris et il y a 17 ans, vous avez emménagé à La Palme. Alors avant d'échanger avec vous, je vous propose d'écouter l'histoire d'un héros. Dans la ville de Tours, un enfant a manqué de se noyer, mais Armand, un pêcheur qui était là au bon moment, a pu le sauver en le pêchant littéralement. Il a réagi après ce sauvetage au micro de Maurice Bruzek et ça s'est passé sur Europe 1 le 17 avril 1962.
Monsieur Armand Grenot, la cinquantaine, mais il en paraît moins. Il a l'œil vif, le biceps solide et c'est, dit-on, dans la région, une fine gaule. Alors je suppose, monsieur Grenot, que c'est un peu grâce à tout cela que vous avez réussi à sauver le petit garçon de 3 ans et demi. Il était loin du bord, l'enfant ?
Environ 15-20 mètres. Il court l'arnée tout le temps. Alors moi, j'ai réagi, voyez-vous, en qualité d'ancien marin. Je me suis dit, il n'y a qu'une seule solution, il n'y en a pas 36. Je me suis dit, mon vieux Armand, fais une chose. Il y avait à peu près 150 mètres à faire. J'ai cavalé, pourtant je suis mutilé du travail. J'ai couru, pourtant j'ai mal au rein. J'ai oublié mon mal de rein. J'ai donc couru immédiatement prendre l'égo à la pêche, au moulinet à brocher, n'est-ce pas ? Et c'est là que j'ai lancé à plusieurs reprises. Et déjà le petit coulait. Et par miracle, c'est le cas de le dire, j'ai réussi à le crocher, quoi. Avec l'hameçon, quoi.
C'est un gros hameçon ?
C'est un hameçon à anguille ou à double branche.
Et vous avez dû vous y reprendre à combien de fois ?
Oh, au moins une quinzaine de fois.
Et il dérivait toujours ?
Ah, tout le temps.
Et il y a beaucoup de courant à cet endroit-là ?
Bah, il y en a assez, remarquez. Puis il y avait un barrage, et puis il commence à couler, alors on l'aurait retrouvé, je ne sais pas où.
Ah oui, il était loin du barrage ?
Environ encore 200 mètres.
Et après, c'était la catastrophe, on ne le retrouvait
pas.
Oh,
là, après, là, c'était fini.
Alors, vous avez accroché les vêtements de l'enfant avec l'hameçon ?
Oui. Et alors, j'ai actionné le moulinet comme ça se fait d'habitude, comme si l'on pêchait, que l'on pêchait une pièce de poisson, quoi, c'est clair de le dire. Alors, aussitôt que nous l'avons saisi, n'est-ce pas ? Nous l'avons pris sur la berge, nous l'avons mis sur le ventre, on fait les mouvements en...
Respiration artificielle.
Respiration artificielle. Alors moi, j'ai mis le bois dans la bouche, n'est-ce pas ? Bon, après, vous savez comment un gosse qui commence à faire son row, dit d'un coup, je dis, il me mord le doigt, je dis, ça fait rien, continue. Allez, vas-y, mon vieux, je crois qu'il est sauvé. S'il emporte le bout du doigt, ça fait rien, c'est qu'il vivra. J'ai allé, vas-y, faut le sauver. Et je crois que nous avons réussi. Ça m'a fait une chose, j'avais le cœur qui battait et tout, pourvu que le fil casse pas.
L'enfant a été transporté à l'hôpital de Tours, sain et sauf.
Merci Mathilde. Je propose qu'on donne quand même la parole à notre ami Henri, c'est un peu la tradition.
Bien sûr.
Mon cher Henri, je te remercie, tu es fidèle au poste pour la troisième fois consécutive et c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Comment vas-tu ?
Ben écoute, ça pourrait aller mieux si Perpignan avait battu Montpellier ce soir, mais bon, on a perdu d'un point et... J'étais un petit peu déçu quand même, parce que c'est une grosse équipe. Montpellier, c'est les champions de France en titre, mais on a bien tenu le match jusqu'à la fin. À la dernière minute, on a perdu. Voilà, bon.
C'est le rugby, c'est le jeu. Je ne te connais pas depuis très longtemps, Henri, même si j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, mais je dois dire que je ne t'ai jamais vu aussi abattu. Tu as l'air quand même terrassé par cette mauvaise nouvelle. C'est sérieux le rugby ?
Ça a été très dur, c'est très sérieux.
Non mais je me moque un peu parce que moi qui ne suis pas tellement passionné par le sport à la télévision ou en vrai, parce que là tu... Mais le sport que je ne pratique pas, ça me paraît toujours un peu abstrait. Donc je compatis sans complètement non plus comprendre ta douleur, mais je la respecte.
Tu respectes ma douleur, c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme et puis je ne fais rien pour la faire ressentir, mais on la ressent quand même.
Qu'est-ce que pense Pascal Margot ? De cette douleur, toi qui es de Nevers, Pascal.
Alors écoute, je compatis parce que étant venu ici à Perpignan depuis peu, automatiquement je me suis mis à suivre l'USAP et c'est vrai que forcément la ferveur du sport du rugby ici dans la région fait que on se sent entraîné à chaque match, à chaque victoire et bon là malheureusement pour le coup c'est une défaite mais
tu serais pas un peu faux toi, camarade?
Absolument pas. Absolument pas. Alors, si vraiment tu voulais le fond de ma pensée, on la refait?
Vas-y.
Alors, étant
de
originaire de Nevers.
Voilà. Mais la vraie version, Henri.
J'aurais pas. Non, mais tu m'obliges à le dire, c'est moche.
Je voudrais faire une émission vivante.
Alors, est-ce que je peux le dire?
Voilà, enfin.
Écoutez, alors, je suis désolé.
On n'est pas sur France Inter, ici.
Je rêverais que...
On a le droit de dire
que...
ce qu'on pense.
Mais alors là, les gens vont me détester, et j'en suis absolument désolé.
Les auditeurs de France Inter vont te détester, mais pas ceux d'Europe 1.
Mais pas ceux d'Europe 1. Et c'est vrai que moi, étant bourguignon, et je soutiens Lussonne Nevers, d'ailleurs qui fait partie de mon ancien patron qui s'occupe du club et avant le Covid, alors je fais une
tu sais que Henri te respecte plus depuis que tu as vraiment dit que tu étais pour ta région,
voilà,
que d'essayer de lui faire plaisir en disant que tu soutenais la sienne. Hein.
Oui, mais je te faisais plus plaisir à toi.
Oui, mais c'est pas une émission pour me faire plaisir.
Alors, je ne fais pas plaisir. Et du coup, je me rappellerai toujours, il y a 2 ans, on devait faire un match USAP Nevers et je n'ai pas pu y aller, le Covid est passé par là et tout a été annulé, donc on n'a jamais pu jouer contre l'USAP. Je rêverais de faire un match contre l'USAP et Nevers.
Alors proposez-moi quelque chose maintenant pour que Guillaume ne s'endorme pas.
Alors
Guillaume a l'air dans un état d'impatience.
Du boulot, c'est peut-être ça.
Alors on va déjà Mathilde, vous allez tendre votre micro. Ah, il a un micro, Guillaume. Est-ce que vous pouvez demander de ma part, Mathilde, à Guillaume, pourquoi il est ici ce soir? Je pourrais lui demander directement, mais je ne sais pas, j'ai envie de passer par vous.
Alors, avec Guillaume, c'est un petit peu rigolo comment on s'est rencontrés. En fait, j'étais avec Benoît dehors, autour de la maison. Et on a croisé un chien qui était tout seul, qui s'appelle Junior. Et j'ai décidé de suivre ce chien qui se promenait tout seul. Parce que pas besoin.
Je lui dois 50 euros, Junior.
Et je suis Junior, et là, je tombe sur Pascal, accompagné de sa conjointe et de leur chienne. Et on a discuté, et on s'est dit, ben, pourquoi pas vous inviter à l'émission de samedi soir.
D'accord. Eh bien, je pensais que vous alliez poser les questions directement à Guillaume, mais si vous voulez que je le fasse, je le fais. Hein.
Ah, mais je peux.
Non, mais je vais demander à Pascal Margot. Voilà, c'est Pascal Margot qui va le faire. Voilà Mathilde, mais merci pour cette.
Alors c'est drôle que tu me dises de poser des questions parce qu'en fait, on a discuté juste avant le démarrage de l'émission et en fait on a un petit peu la même histoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout originaire d'ici et on est venu ici dans la région et on n'a pas du tout la même expérience. C'est-à-dire que moi, je trouve ça génial d'être venu ici dans la région. Je trouve que l'Occitanie est extraordinaire. Et c'est vrai que quand j'ai discuté avec lui, j'ai pas du tout eu le même retour. Donc,
eh bien, nous allons
la première
demander.
Question,
oui, vas-y.
C'était au final, pourquoi ça s'est si mal passé?
Je vais modérer. Ça ne s'est pas mal passé. C'est simplement qu'effectivement, la région est complètement différente. Je suis parisien d'origine, donc effectivement, ça a quand même été un choc il y a 17 ans. Depuis 17 ans, il y a eu quand même énormément de changements dans la région. Le petit exemple, aujourd'hui, les magasins ne ferment pas entre 12h et 14h, alors que quand je suis arrivé, les trois quarts des magasins ferment entre 12h et 14h. Et je parle de magasins de bricolage que je ne nommerai pas parce qu'on n'a pas le droit.
Et c'est ça qui vous a traumatisé?
C'était traumatisant. Après, il y a aussi tout le côté, je dirais... culturel que je n'ai pas retrouvé aussi facilement qu'on peut trouver sur Paris.
Ah, parce mais que vous pensiez qu'à La Palme, il y avait autant de cinéma que sur les Champs-Élysées?
C'est à peu près ça, voilà. Tout à fait. Les seuls cinémas en VO, parce que j'adore la VO, c'est Toulouse. Donc effectivement, au départ...
La Cinémathèque de Toulouse.
Voilà, exactement. Alors que ça a été compliqué pour un Parisien. Maintenant, je m'y suis fortement habitué plus que ça. Je pense être maintenant devenu palmiste depuis maintenant, je dirais, une bonne dizaine d'années.
Oui, donc ce n'est pas une expérience qui est totalement négative.
Non, pas du tout, pas du tout. Mes filles sont... une de mes filles est ici, son copain est pompier ici, donc effectivement. Et je suis aussi le secrétaire du club de la Palme d'escalade.
Ah, mais... d'accord. Et j'ai une question qui m'a posé. Est-ce que ça a été difficile au début de vous intégrer? L'accueil des palmistes a été...
Il a été très, très bon.
Très bon, parce qu'ils sont accueillants. Quand même, hein.
Très accueillants. C'est moi qui était par rapport à une demande...
Un peu réfractaire.
Voilà, plus réfractaire, parce que j'avais des... besoin, si je puis dire, en tout cas, des choses que je n'ai absolument pas retrouvées sur Paris.
Des besoins de citadins.
Voilà, exactement. Voilà. Le crétin de Parisien, on peut le dire, le crétin de Parisien.
Par contre, excuse-moi, ouais. C'est vrai que quand tu viens dans la région, on sait qu'on change complètement de vie. C'est sûr que quand tu es citadin à Paris et que tu arrives ici à La Palme, tu sais très bien que tu ne vas pas retrouver la vie parisienne.
Tout à fait.
Donc c'est bizarre d'entendre que ça me manque, ce côté citadin. Mais quand tu viens ici, tu sais très bien que cette vie n'existe pas, qu'il n'y a pas cette vie parisienne.
Je pensais la retrouver, non pas à La Palme, bien évidemment, puisqu'à l'époque, il y avait 1500 habitants, mais plutôt du côté de Perpignan et de Narbonne, pour ne pas les nommer, et sur lequel, malheureusement, il n'y a pas eu à l'époque, je parle bien d'il y a 17 ans, assez d'efforts faits sur ce côté culturel.
Concrètement, Perpignan fait 100 000 habitants, Paris fait combien d'habitants, Yann ?
Paris, 3 millions d'habitants.
3 millions d'habitants. C'est-à-dire que on peut imaginer retrouver les mêmes choses, mais c'est concrètement impossible. Aujourd'hui, Perpignan fait 100 000, Narbonne, je sais pas. Et
j'aimerais quand même entendre l'opinion d'Henri par rapport au témoignage de notre ami Guillaume. Et puis ensuite, on demandera à Bernard de bien vouloir intervenir. Mon cher Henri, que penses-tu de tout ça, cette expérience?
Très honnêtement, c'est compliqué de comparer la richesse culturelle de la capitale et puis notre village. Bien que hier on a entendu parler quand même de l'université des Coussouls. Alors on avait fait le parallèle avec la bibliothèque des Cigales d'Alphonse Daudet. Et quand je parle de l'université des Coussouls, alors ça a été cité hier par notre ami Patrice Gabanou qui a parlé un petit peu de ce coin du bord des temps. Où il y a une nature qui est préservée, qui est magnifique, avec une biodiversité extraordinaire. Et c'est vrai que ici, la partie culturelle, il faut savoir se la gagner, quoi. C'est-à-dire que c'est dans la nature qu'on va chercher un certain nombre d'approches culturelles. C'est dans l'histoire de cette région qu'on va chercher aussi de la culture. Il est évident que les outils culturels... cinéma, théâtre, etc. Là, on est très loin de ce qui se passe dans la capitale. Et je compatis tout à fait à ce que notre ami vient de nous dire.
Alors moi, je vais vous dire un truc. Lorsqu'on demandait à Pierre Desproges ce qu'il pensait d'émission apostrophe, il répondait « émission avec des chaises et des gens assis dessus ». Et j'ai l'impression que quand on est là, dans la partie salon, sur nos chaises, l'émission est engoncée. Alors que quand on est à table, là-bas, l'émission reprend vie. Alors je vous propose... de passer sur la table, à table. Parce que ça sera, je ne sais pas, il y aura quelque chose de plus convivial, de plus bordélique. Et je pense que ça peut faire décoller un peu, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. Voilà, on va penser la publicité, comme ça on va dans la cuisine. Oui. Publicité.
Europe 1. Europe 1.
Antenne libre.
Accompagne vos nuits.
Sur Europe 1, en direct à La Palme, avec mon équipe Mathilde, Nicolas et Benoît, qui est aux manettes, qui a travaillé vraiment. Alors là, je dois dire, moi j'ai fait un peu d'électronique, etc. Mais là, tous les fils qu'il a à brancher, enfin, moi je n'en reviens pas, ça fait. Bref. Il est là comme un alien avec ses micros, ses fils, ses trucs qui clignotent. Bref. C'est quand même un métier difficile aussi, hein, ingénieur du son. Mathilde, je vous laisse représenter pour les auditrices et les auditeurs qui viennent nous rejoindre, nos différents invités, puis on va les laisser débattre un petit peu entre eux, mais je vous laisse nous les représenter, ma chère Mathilde.
Alors, pour commencer, Henri Forgue, premier adjoint au maire de La Palme. Il y a aussi Alain qui nous a rejoint, viticulteur, qui était avec nous hier soir.
Sacré personnage que nous aimons déjà beaucoup, puisque hier, il a mis une ambiance du feu de Dieu.
Incroyable. Guillaume est aussi parmi nous et Bernard Pérez avec son fils Yanis qui sont pêcheurs et Pascal et Sandrine qui viennent de Perpignan et qui ont un food truck bar à huîtres qui s'appelle Sur la plage abandonnée.
Avant de laisser nos amis se retenir, je voulais quand même préciser que à la décharge de notre ami Guillaume, dont je ne voudrais pas que ça tourne au procès ce soir. Je veux dire que Guillaume a quand même eu le courage, non pas d'avoir une maison secondaire à La Palme, mais il a changé de vie, Guillaume. C'est-à-dire que il était à Paris, il avait l'habitude peut-être d'acheter Libé, machin, le jour même, enfin, ou Le Monde au moment où ça sortait, d'aller au cinéma voir des films en VO, de pouvoir avoir une offre culturelle immense, même s'il ne pouvait pas tout voir, et tout d'un coup se retrouver finalement face, d'une certaine manière, à lui-même, dans un lieu totalement dépaysant, a pu être une expérience riche, mais aussi un petit peu déconcertante, Pascal.
Complètement, et c'est là où je trouve ça complètement génial en même temps et improbable, c'est que vous l'avez rencontré, il a décidé de venir, et il vient pour parler de son histoire.
Il prouve qu'il d'abord il est ouvert d'esprit,
il est
comme disait Henri Ford tout à l'heure, s'il est depuis 17 ans à La Palme, c'est qu'il s'y plaît.
C'est que
Pascal, je vais demander à Henri de prendre les manettes, et puis vous allez ensuite, mon cher Pascal, reprendre. Henri, à vous.
Oui, Guillaume. Guillaume, pourquoi vous avez quitté Paris ?
Alors, c'est très facile, si je puis dire. Paris, c'était un enfer. Il suffit de demander à Yann, je pense qu'il ne pourra que abonder en mon sens. Et effectivement, j'ai eu une opportunité de pouvoir venir travailler dans la région, c'est-à-dire entre Perpignan, Narbonne et après sur Sète. Et effectivement, j'ai sauté sur cette occasion avec, effectivement, au départ, je le répète, juste quelque chose, c'est pas que ça ne m'a pas plu, c'est qu'il m'a manqué des choses que j'ai comblées de manière complètement différente. Je pense que je suis maintenant connu un peu de tout le village, surtout avec mon épouse, surtout par mon épouse, pardon. On s'est investi aussi effectivement sur certaines associations, comme par exemple.
Vous êtes mondialement connu à La Palme.
Oui, voilà, exactement, mondialement connu à La Palme. On a même monté donc le club d'escalade de La Palme. Effectivement, je pense qu'on aurait très bien pu.
Parlez bien devant
faire.
Le micro.
Voilà,
hein,
oui, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi. Et donc effectivement, aujourd'hui, je suis très heureux à La Palme. Je ne quitterai plus La Palme. Après, pour des questions de travail, c'est totalement différent.
Oui.
Et là, on rentre dans un côté économique qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'effectivement, je parle par rapport à mon métier où j'ai beaucoup de difficultés à trouver d'une part des clients parce que je suis commercial.
Quel métier ?
Alors, je suis technico-commercial dans la bureautique. Or, effectivement, à aujourd'hui, il y a des grosses difficultés. À aujourd'hui, on va se retrouver plutôt sur des pôles comme Montpellier ou Toulouse et non pas sur même Perpignan où ce sont des marchés qui sont saturés. Narbonne, c'est pareil, où effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a un bassin, effectivement, malheureusement, d'emploi qui n'est pas assez développé. Ça commence à changer fortement, mais il manque encore une petite impulsion.
Alors oui, j'entends ce que tu dis, mais je suis d'accord et pas d'accord. C'est que du travail, il y en a, et on va pas rentrer dans un débat qui n'est absolument pas le thème de la soirée. D'ailleurs, pour le coup, c'est vrai que on veut pas déborder. Et on avait plutôt un avis positif sur la région, sur La Palme, que même nous on connaissait pas vraiment. Je trouve juste que je comprends pas que ça soit aussi compliqué pour toi de faire autre chose. Et alors, excuse-moi si je peux me permettre.
Aussi Alain, ce qu'il en pense, hein, parce qu'il a beaucoup intervenu, Alain.
Ouais. Et je pense que Alain va.
Alain, c'est important qu'on l'entende.
Et je finis juste parce que ce qui est très drôle, c'est que en fait, on est là à La Palme chez Yann et on discute de sujets de tout et d'autres, alors que depuis des années, on sait très bien que vivre à Paris, c'est compliqué. C'est pas du tout la même vie que vivre dans le sud de la France.
Pas trop de tunnel, hein. Passe un peu la parole aux gens. Tu peux pas monopoliser.
D'accord. Donc je passe la parole.
Alain, qu'on n'a pas encore.
Alain.
À la radio, tu peux pas. Ouais.
Non mais je suis pas un homme de radio.
Les gens s'emmerdent.
Ben ouais, le problème c'est ça. C'est qu'il faut trouver le temps entre. Il faut passer la parole.
Tu te tais maintenant. Tu te tais, Alain.
C'est à toi, Alain.
T'es pas catalan, toi ?
Bientôt.
Bientôt. Bon, non, je sais pas, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, comme on dit par chez nous, là. Donc, je prends le sujet en cours. Bon, comme je dis hier un peu à Yann, là, mais c'est valable pour lui, mais c'est valable pour tous, puisque moi, je suis l'autochtone local. Bernard peut en témoigner. Je suis né ici, de mon grand-père et mon fils. Mon fils est ici, mon petit-fils habite ici. Donc, je suis l'autochtone local. Je pense être, mais peut-être plus qu'Henri, puisqu'il est un peu transfuge de Lecat, un petit peu.
Double nationalité.
Double nationalité, Henri, la double nationalité.
Henri est né
donc,
ici.
Ici, quand on va dans une autre région, et quelle que soit la région qu'on va, on est invité un certain temps. Et quand on a fait ces preuves comme quoi on est bien intégré dans l'invitation, et bien à partir de là, on va te considérer comme un des nôtres. Donc si, quand on va dans les autres régions, il faut abandonner tout ce qu'on a connu avant et accepter tout ce qui arrive dans la région nouvelle. Et je peux comprendre que peut-être des carences affectives ou de cinéma ou de trucs avec de vie trépidante qu'il avait avant, qu'il a abandonné, lui manque. Mais s'il est parti, c'est parce qu'il a abandonné. Et en même temps, il faut savoir abandonner son passé pour renaître plus tard ailleurs, dans une autre région. Donc si tu es, je pense que 17 ans que tu es ici, je considère que je peux t'adopter, quoi.
Et là, on a un petit peu, peut-être Henri, là. On a le contre-pied de la démarche de Guillaume avec, par exemple, ta démarche à toi, Alain, ou la démarche de Bernard. Bernard qui est resté dans cette région pour y travailler.
Oui, oui. Bien sûr, mais je voudrais lui dire quand même à Guillaume qu'il a dit que c'était dur dans sa branche de trouver du travail. Je peux lui dire que dans la viticulture ou dans la pêche,
c'est dur partout.
Il y a du travail et on manque de main-d'œuvre. Alors, je pense que aussi, à un moment donné, il faut changer de voie. Il ne faut pas se restreindre à rester dans le même métier dans lequel on a été formé.
Et c'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je vais totalement changer de métier. Je ne sais pas encore lequel, mais en tout cas, effectivement...
J'espère que tu ne vendras pas des huîtres parce qu'on est déjà sur le marché.
Alors non, je les dégusterai.
Alors, pour faire une petite parenthèse, quand même, il se passe des choses dans la région, quand même. Moi, je fais le constat comme vous, on l'a fait. Il y a quelques années, on a fait le constat qu'on était une région pauvre en emploi, pauvre en développement économique. Et on se rend compte aujourd'hui quand même que localement, il y a des choses qui se font. Il y a un port de la Nouvelle qui est en train d'exploser, avec un port qui devient énorme, avec de l'éolien flottant, etc., avec les métiers que ça va entraîner. Ici même à La Palme, on est en train de créer une zone d'activité avec le Grand Narbonne, une zone d'activité où il n'y aura pas des commerces, il y aura des entreprises qui vont produire, qui vont créer des emplois aussi. Et on est en train de travailler aussi pour créer un centre de soins du psoriasis avec le sel et le soleil. Et là aussi, c'est des emplois avec des emplois locaux qui sont créés. Donc il faut savoir quand même que même si la photographie, à un moment donné, n'était pas très belle en matière économique, elle a tendance aujourd'hui à changer un petit peu. Et sur les jours qui viennent, sur les années qui viennent, on peut être un petit peu plus optimiste.
Bon, on est en direct sur Europe 1. Voici la chronique de Nicolas.
Merci Alain. Alain, est-ce que vous aimez la poésie ?
Finis mon micro, maman, ça suffit.
La poésie, je lève.
J'ai l'impression qu'on va s'endormir.
Local, tu parles pas toi,
est-ce qu'il
Nicolas
serait pas l'heure de l'apéritif ?
Alors non, c'est pas
la poésie. Je vais essayer d'apprendre.
Il est où Yann ?
Alors, écoutez-moi.
Ah ouais, non, mais là, depuis tout à l'heure, je fais semblant. Hein, je fais attention,
on ne va
pas dire de mauvaises phrases. Ouais, je me retiens depuis tout à l'heure.
Alors on va... La semaine dernière, pardon, il me perturbe. La semaine dernière, je vous ai passé des extraits de l'émission Campus, une émission créée par François Jouffat qui a été diffusée sur Europe 1 de 1969 à 1972. C'est une émission dédiée à la poésie. Et je vous propose de continuer à découvrir ces merveilleux poèmes déclamés en musique par Michel Lancelot pour Europe 1.
Les énormes avenues du pays saint, les terrasses du temple. Qu'a-t-on fait du brahmane qui m'expliqua les proverbes ? D'alors, de là-bas, je vois encore même les vieilles. Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule, et de nos caresses, debout dans les plaines poivrées. Un envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée. Exilé ici, j'ai eu une scène où jouaient les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. Je vous indiquerai les richesses inouïes. J'observe l'histoire des trésors que vous trouvâtes. Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend. Je suis un inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. À présent, gentilhomme d'une campagne aigre au ciel sobre, j'essaye de m'émouvoir au souvenir de l'enfance mendiante, l'apprentissage ou de l'arrivée en sabots, des polémiques, des 5 ou 6 veuvages, et quelques noces où ma forte tête m'empêcha de monter au diapason de mes camarades. Je ne regrette pas ma vieille part de gaieté divine. L'air sobre de cette aigre campagne alimente fort activement mon atroce scepticisme. Mais comme ce scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que d'ailleurs je suis dévoué à un trouble nouveau, j'attends de devenir un très méchant fou. Dans un grenier où je fus enfermé à 12 ans, j'ai connu le monde. J'ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier, j'ai appris l'histoire. À quelques fêtes de nuit dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris, on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe et pas de commission.
Merci mon cher Nicolas pour cette très belle archive, car je rappelle à nos éditrices et nos auditeurs que Nicolas est allé chercher dans une émission qui s'appelait Campus, je crois, des trésors de la poésie française.